Shalom Aleichem, aujourd'hui nous allons parler de Chag HaShavuot, de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Je vais utiliser un texte du Rav Kook et je vais l'expliquer, donc je l'ai déjà écrit. Tout ce qui est en gras, c'est donc les paroles du Rav Kook lui-même, et tout ce qui n'est pas en gras, c'est en réalité mon explication de ce que le Rav Kook nous a écrit concernant la fête de Shavuot. Katav Rav Kook Zatzal, Haolam kulo mitbaker bechag haShavuot. Le Rav nous dit que durant la fête de Shavuot, le monde tout entier devient aîné, comme le fils aîné. Qu'est-ce que ça veut dire? Nir'e lomar shekavanato shebeyom matan Torah. Le Rav est en train de nous expliquer que le jour du don de la Torah, shav ha'olam eli yudo hamekori, le monde tout simplement revient à son essence première. Les galot malchut Hashem ba'olam, qui était, comme vous le savez, de dévoiler sa royauté céleste sur terre. Vezematril bemuchashiut, et ceci commence à se réaliser effectivement, d'une manière effective, bematan Torah besinai, le jour du don de la Torah au mont Sinaï. Il faut bien comprendre que le don de la Torah, c'est la parole divine qui s'adresse aux hommes. Pour la première fois dans l'histoire, on sait clairement ce que le Créateur veut de nous en tant qu'humain, en tant que créature de Dieu lui-même. Pour la première fois dans l'histoire, le message divin arrive sur terre. Pour la première fois dans l'histoire, la prophétie se révèle d'une manière collective à un peuple entier. Et donc en réalité, ce jour-là reflète, indique l'essence même du but de toute la création du monde. Puisque, je vous le rappelle, la création du monde était donc de dévoiler Dieu sur terre, eh bien le jour où ça se passe, eh bien, c'est comme si on est arrivé, en fait, au début. Essayez d'arriver en avance, sinon je vais couper le cours de moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, Akadosh Baruch Hu se dévoile au mont Sinaï, et par là même, en fait, on ferme la boucle est fermée. Ce qui était prévu au départ se réalise maintenant. Donc, moralité, ce qui était prévu au départ, c'est comme la pensée aînée, la première pensée, Bechor. Et donc, la première pensée divine se réalise le jour du don de la Torah. Donc, le Rav Kook nous dit que ce jour-là, le monde revient à son degré d'aîné, c'est-à-dire à la première pensée divine pour créer le monde. Puisque le don de la Torah se réalise, et le don de la Torah, je le répète, c'est la parole divine sur terre. Donc Akadosh Baruch Hu descend sur terre, se dévoile sur terre. Moralité, on ferme complètement le cercle et terminé. Sheharei az matril hadibur ha'elohi. Donc puisque ce jour-là, la parole divine commence à s'adresser clairement à l'homme. Betsura brura, d'une manière claire. Ou mimeila. Et donc, par conséquence, Aolam choser le madrigat bechorato. Le monde revient à son étape de prémisse, c'est-à-dire d'aîné, de la pensée première d'Akadosh Baruch Hu. Pas par hasard que cette fête s'appelle Bikurim. Chag HaBikurim, traduction littérale, la fête des aînés, des premiers-nés. Ce soit les premiers-nés des fruits, mais c'est aussi le premier-né de la pensée divine. Ken?
Ce que je veux dire, c'est que pour le Rav Kook, en fait, on revient au stade de création du monde.
Tout à fait. Le jour de Matan Torah, en fait, se réalise réellement la création du monde. C'est-à-dire le but de la création du monde se manifeste. Klomar, le yom hakarov beyoter le mi sheolid oto kemo bechor. Donc ce jour-là est le plus proche de celui qui l'a engendré. Donc le premier-né. Comme le premier-né chez un papa, qui est le plus proche du papa parce que c'est le premier qui l'a rendu papa, on va dire que Shavuot a rendu papa à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si Akadosh Baruch Hu a créé un enfant, cet enfant se réalise, c'est le premier-né, se réalise le jour de Shavuot. Donc le peuple d'Israël est en train de recevoir la parole divine, qui était en fait, tout ce système était déjà dans la pensée première.
Okay. Je crois, le peuple d'Israël c'est son aîné.
Le peuple d'Israël, c'est l'aîné qui reçoit l'aînesse, c'est-à-dire le droit d'aînesse, c'est-à-dire la Torah. La Torah aussi, c'est l'aîné de Dieu. Puisque deux choses s'appellent Réchit. Je vous ramène à Bereshit. Bereshit, il y a remarqué Israël nikreu Réchit. Israël est appelé Réchit. Et à Torah nikreu Réchit. La Torah aussi s'appelle Réchit. Donc comme il y a deux Réchitot, il y a deux premiers-nés entre guillemets, l'une... L'un des premiers-nés en forme humaine, c'est Israël. L'autre, en forme de Torah, c'est la Torah. D'accord? Ça veut dire que on rejoint ici, on reforme aussi, ici, les aînés de la pensée divine. Donc, maintenant on comprend les termes du Rav, que le jour de Shavuot, le monde est en train de revenir à son degré de l'aîné. Zocher et Mahamad Abechora, ce qui sous-entend que ce monde-là se souvient de la position du premier-né, ou Matrilif Olbehat Ama, et il commence à se réaliser en tant que tel. C'est-à-dire que le premier-né commence à jouer son rôle de premier-né pour la première fois dans l'histoire. Donc la pensée divine se réalise réellement, se manifeste réellement dans le monde, par le biais de la Torah. Le Rav continue. Kol ha'olam sameach. Si c'est le cas, eh bien, le monde entier est en joie. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a un lien maintenant qui se fait. Et qu'est-ce qui engendre la simcha? Nous le savons dans le judaïsme. D'où est-ce que la simcha arrive? Non? Comment est-ce qu'on atteint le degré de simcha dans la Torah? Ken? Quand il n'y a plus de safek, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est safek en hébreu? Un arrêt. Ron, lifsok, ou arrêter, pesek, leafsik. Quand il n'y a plus d'arrêt, il y a simcha. C'est-à-dire que la simcha vient de la continuité, c'est-à-dire de la descente de la source jusqu'au résultat. Lorsque quelque chose coule de source et arrive pleinement en bas, ça engendre la simcha. C'est le cas ici, puisque la Torah qui vient de l'infini descend et arrive sur terre. Donc, moralité, c'est comme si le but même de la création est en train de se réaliser. Il n'est pas encore complet, mais il se réalise.
Ken. Ça veut dire en fait, le safek qu'il est censé être, se dissiper au fur et à mesure.
C'est pas Simcha Torah. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une Simcha aussi de la Torah, mais pour l'instant, nous sommes à Shavuot. C'est-à-dire que le monde, en fait, le jour du don de la Torah, a perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a perdu? Quelque chose de négatif.
Le doute.
C'est-à-dire que tous les doutes se sont dissipés le jour du don de la Torah. Autrement dit, le monde est devenu tellement clair, tout est devenu tellement évident, parce que la lumière divine est en train de se réaliser, on entend le créateur du monde nous parler. Il n'y a rien de plus évident que ça. C'est-à-dire, toutes les difficultés à comprendre, à entendre, tous les doutes qui étaient là pour nous bloquer en fait, pour créer un écran, sont en train de se dissiper en même temps que la Torah descend. Donc s'il n'y a plus de doute, il y a la simcha, puisqu'il n'y a pas de simcha comme le fait d'enlever les doutes. Donc quand on enlève le doute, la simcha réside. Quand la simcha réside, c'est-à-dire la plénitude réside. Donc qu'est-ce qui disparaît du monde? Le doute, on l'a dit. La mort. Il n'y a plus de mort dans le monde. Ça veut dire qu'au moment où quelqu'un est évident dans sa vie, la mort disparaît de lui. Et c'est pour ça que le jour du don de la Torah, la mort a disparu de l'existence. Si ce n'est qu'elle est revenue après par la faute. Mais au moment même, si on était resté à ce niveau-là, Bila Hamavet la Netzach, la mort a été annulée en fait. Donc on a corrigé par la réception de la Torah, par ce jour de Shavuot, on a corrigé quoi? La première faute du premier homme, qui en réalité a amené la mort au monde, et là la mort est en train de disparaître. Donc si la mort disparaît, ça veut dire qu'on a fait la réparation, on a fait le tikkun du premier homme. C'est vrai? Tu t'occupes à écouter ou juste à poser ta question? Tu as entendu ce que je viens de dire? Ok, alors dis-moi maintenant ta question.
Et après, donc en fait, tout ça, c'est revenu le doute.
C'est ce que je dis. Qu'après, par la faute du veau d'or, la mort s'est réinstallée, donc le doute s'est réinstallé, donc toutes les épreuves que le monde contient sont revenues. Mais, ta question est bonne, avec un changement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà goûté à la Torah. Ça veut dire que même le doute qui va venir après n'est plus le même doute qui était avant. Ça veut dire que nous avons gagné quelque chose, même si cette chose-là a disparu plus tard. Et là, il y a une règle dans le judaïsme. En he'eder beruchaniut. Il n'y a pas de changement au niveau spirituel. C'est-à-dire que lorsque le spirituel arrive quelque part, lorsque l'esprit d'Akadosh Baruch Hu touche un degré, même si après il disparaît, il repart, il reste une trace de ce contact avec le divin. Vous avez compris? Donc notre état a changé définitivement à partir du moment où la Torah nous a touchés, où la lumière divine nous a touchés. Même si après la mort reviendra, même si après les doutes reviendront, ce n'est plus les mêmes. Ce sont des doutes qui sont post-Torah et donc ce ne sont pas les mêmes doutes. Il y a un degré, nous avons gagné malgré tout. Donc à Olam Samer, Kol Olam Gadolhu, regardez les paroles du Rav, le monde devient grand. Qu'est-ce que c'est que cette notion de grandeur? Qu'est-ce que ça veut dire à Olam Gadol? Et le monde a grandi, il s'est élargi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a grandi. Il ne dit pas Gavoa, il dit Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Gdoula, Gadol? En hébreu, Gadol est synonyme de... Qu'est-ce que c'est grand? Qu'est-ce que c'est grand dans les termes de nos sages? Quand on dit à quelqu'un la différence entre un Gadol et un Katan, quelle est la différence? Ça, c'est l'application. Tu es en train de me donner le symptôme. Mais qu'est-ce qui engendre le fait que le Gadol s'appelle Gadol et le Katan s'appelle Katan?
Celui qui donne le plus de mal, celui qui se donne le plus de mal.
Non. Pas tout à fait. Il y a un degré qui s'appelle Gdoula. Quand on sort le Sefer Torah, vous chantez Lecha Hashem, Hagedoula, Veagvura, Veatif Eret, Veanetzach, Veahod. Vous avez fait attention que vous êtes en train de citer toutes les sphères de la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire Lecha Hashem Hagdoula? La grandeur t'appartient à toi, à Kadosh Baruch Hu. Donc Dieu est grand. Pourquoi on l'appelle grand? Ael Hagadol Hagibor Vehanora. Non. Grand est synonyme d'une seule chose. De donner. Grandeur égale quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui sait donner à autrui, il s'appelle un grand. Un petit se définit par sa petitesse, c'est-à-dire par son désir de recevoir pour lui-même. Comment je peux voir si un enfant est normal? Tout est à lui. Dès qu'il rentre quelque part, il prend les choses, il met dans les poches. Il prend, il ramasse. Tout est à lui. Ça s'appelle un katan. Un gadol, c'est quelqu'un qui commence à changer son être de receveur. Il devient donneur. Donc lorsque le monde devient gadol, nous dit le Rav, ça veut dire que le monde a appris quelque chose de qui? D'Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est considéré comme étant le grand, le plus grand. C'est-à-dire le plus d'honneur. Donc le monde devient, par le contact de la Torah qui est en train de descendre, le monde lui-même devient d'honneur. C'est ça le symbole de grandir. Donc devenir d'honneur. C'est comme ça qu'on devient grand. Kol ha'aretz hi shel Hashem begilul elyon. Donc toute la terre, nous dit le Rav, hi shel Hashem begilul elyon, devient la terre de Akadosh Baruch Hu avec un dévoilement supérieur. Encore des termes qui sont très profonds, que le Rav nous donne par allusion, c'est-à-dire que le monde devient en fait, qu'est-ce que le monde devient? Le monde devient en fait révélateur, Giloui, d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors, je vais l'expliquer avec mes mots à moi. Alors, suivez avec moi. Gam Kan, Mamshich Harav et Arayon Arishon. Là aussi, le Rav continue son idée première. Vehu, qui est, She Simchat Haolam Nova'at Me'etzem Achibur Shelo Im Bor'o. Donc, la joie du monde provient du fait que la création tout entière est en contact avec le Créateur. Donc le Créateur rejoint sa création. En effet, au moment de la création du monde, qu'est-ce qui s'est passé en quelque sorte? Dieu a disparu. C'est comme s'il avait accouché de ce monde, donc il a sorti ce monde de lui-même, et donc il est dans un degré extérieur au monde, comme une maman avec son bébé. On coupe le cordon ombilical. Eh bien, à un moment donné, la maman revient vers le bébé pour le nourrir. Eh bien, voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire clairement maintenant. Il revient vers le bébé, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu vient vers sa création tout entière et lui donne de son lait maternel et paternel. Et ce lait s'appelle la Torah. Dvash vechalav tachat leshonech. Ça veut dire que la Torah, c'est le lait d'Akadosh Baruch Hu qui nourrit le monde tout entier dans lequel nous sommes. Et donc, ce contact-là amène automatiquement la simcha. Me'etzem ha'yerida. Donc, cette simcha provient de l'essence même, du fait même qu'Akadosh Baruch Hu est en train de descendre et la olam hazeh vers le monde fini, vers ce monde-ci. Ve'ashlemut molida simcha. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, et je le répète, l'entité, quand quelque chose devient entier, eh bien ça engendre la simcha, ça engendre la joie. Velachen, kol ha'olam gadol, et c'est pour ça que le monde entier devient grand. Kevan she hagadlut yisoda hashpa'a, donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure oralement, c'est que la grandeur est synonyme de hashpa'a, de partage, de don, et que Akadosh Baruch Hu mashpia la olam, et quand Akadosh Baruch Hu donne, prodigue au monde, azay olam connaît trunazo, et bien le monde lui-même acquiert cette qualité. Vous comprenez que le don de la Torah n'est pas un don de quelque chose qui était là-bas et qui arrive ici. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu, quand il donne la Torah ne l'a pas quitté. Est-ce que vous comprenez? Quand je remplis une bouteille d'eau et que de la bouteille je remplis 10 verres, est-ce qu'il reste de l'eau dans la bouteille? Non. Mais lorsque tu donnes la Torah au monde, est-ce que la Torah a quitté sa source? Non. Pourquoi? Quelle est la différence entre ça et une bouteille d'eau? Et alors, quand je donne quelque chose, normalement je devrais me vider. Pourquoi je ne me vide pas? Là, je suis en train de vous donner de la Torah. Normalement, je devrais me vider. À la fin du shiur, je suis vide. Or, c'est l'inverse.
Ça se transmet, la Torah.
Mais pourquoi?
On copie, on fait des copies.
Vous oubliez quelque chose. Parce que la bouteille est déconnectée de sa source. Une fois que j'ai rempli une bouteille, elle est loin de la source d'eau. Tandis que quand je suis en train d'enseigner la Torah, j'ai pas coupé quelque chose, je suis encore relié au donneur de la Torah. C'est-à-dire que le donneur de la Torah continue par moi, je ne deviens qu'un canal, qu'un tuyau. Donc ce n'est pas moi qui donne. On m'utilise comme vecteur Et donc tout passe par moi maintenant, mais moi je ne perds rien parce qu'en réalité ce n'est pas de moi. Vous avez compris? C'est comme un tuyau d'eau. Le tuyau d'eau se vide? Non. Il est tout le temps en train de faire passer de l'eau. Eh bien, à chaque fois que je deviens canal de cette lumière, moi-même, je m'imprègne de cette lumière et en même temps, je partage. Est-ce que c'est clair? Et donc, la Torah ne quitte pas sa source. Elle coule de source, mais elle continue à être reliée à sa source infinie. Et donc, tant qu'on fait couler cette Torah, jamais elle se termine. Je peux faire couler de la Torah des milliards d'années. Ça ne se terminera jamais, parce que la source est infinie. Et donc, lorsque cette Torah me touche maintenant, qu'est-ce que ça provoque chez moi? Un changement. Et quel est le changement radical, premier? C'est que je deviens comme elle, c'est-à-dire que j'acquiers les qualités de cette Torah qui passe par moi, qui me traverse. Et quelle est la qualité de la Torah qui me traverse? Première, essentielle, dont on vient de me parler maintenant. La grandeur. La grandeur. C'est pour ça que quand on sort le livre de Torah du Echal, on commence l'Echa Hashem Hagdoula. On n'a pas dit autre chose. Et quand on commence la Amida, à El Hagadol. D'abord, ça veut dire que la première référence qui touche ce monde et qui l'imprègne de son contact et qui transforme ce monde, c'est quoi? C'est la grandeur, c'est-à-dire la bonté, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire le savoir donner. Et je vais vous dire maintenant clairement, quiconque ne sait pas donner dans ce monde est appelé petit. Et si vous voulez savoir si vous êtes grand, si vous avez grandi, c'est quand vous commencez à donner. Et c'est pour ça qu'un homme véritablement devient grand lorsqu'il commence à se marier et à donner la vie. Avant cela, il ne pense qu'à lui. Il ne pense pas pour deux, il ne pense pas pour autrui. Il est égoïste. Et donc, quand on commence à comprendre ce degré-là, on commence à grandir lorsqu'on est en train de partager. Et ce partage dans ce monde, c'est lorsque je prends une femme. Et c'est pour ça que c'est la grandeur la plus élevée. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, quand il donne la Torah, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Un acte de mariage. Avec qui? Avec le peuple d'Israël. En réalité, avec le monde entier, mais par le biais du peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël devient comme la femme, comme l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu commence à devenir grand. Parce qu'il commence à partager avec son épouse sa Torah. Donc, qu'est-ce que c'est que la fête de Shavuot? C'est le jour du mariage. Entre Akadosh Baruch Hu et l'assemblée d'Israël. Vous avez compris? Quel?
Il disait que Dieu, il est grand parce qu'il donne la Torah.
Nakhon. Parce qu'il est donneur.
Et nous aussi, on est grand parce qu'on prend la Torah?
Non. Parce qu'en recevant la Torah, nous sommes capables de devenir comme elle. C'est-à-dire que quand tu reçois la Torah, si cette Torah que tu reçois reste en toi, tu es encore petit. Mais si cette Torah te traverse pour arriver à d'autres, alors tu deviens grand. Ça veut dire que tu veux savoir si ta Torah te fait grandir ou pas. C'est selon ta conduite après que cette Torah t'ait traversée. Et là, tu peux savoir réellement si elle t'a traversée ou sinon, c'est juste une étude informatique, une information que tu as reçue de loin, mais elle ne t'a pas touché véritablement. Ça, c'est pas une véritable étude. Vous comprenez la différence? Ken? Nachon. Bevadaï qu'il a reçu une Torah. Il a reçu la Torah au niveau intuitif. Avant que cette Torah revienne à lui, à nous, en tant que Torah au Mont Sinaï, Avraham Avinu recevait par prophétie. Qu'est-ce que c'est que la Torah en fait? Le don de la Torah c'est quoi? C'est une prophétie collective du peuple d'Israël. Avraham Avinu a eu une prophétie individuelle, mais pour le collectif Israël. Donc il a reçu la Torah à sa manière. Et donc les sages nous disent dans la Gemara qu'Abraham Avinu faisait tout ce que la Torah dans le futur dira. Il le faisait déjà avant. Comment est-ce possible? Mais justement parce qu'il avait reçu la Torah à sa manière, à son niveau. Okay? Ce n'est pas la même Torah que nous, mais c'est la même essence. Donc étant prophète, il reçoit la parole divine. Il n'y a rien de différent. La seule grande différence, c'est que lui est en tant qu'individu, et là, c'est le peuple tout entier. On monte de niveau. C'est bon pour l'instant? Ok. Donc le monde acquiert cette qualité divine. Et lorsque le monde lui-même devient donneur, a compris le secret du don, comme Abraham. Abraham, c'est Isha Chesed. C'est pour ça que c'est le premier. Ken Magen Abraham. On doit protéger Abraham. Pourquoi la bracha, la première bénédiction dans la Hamida, se termine par Magen Abraham? Parce qu'il faut, il s'agit de protéger qui? Abraham. Qu'est-ce que c'est Abraham? Non. C'est la qualité d'Abraham. Je dois protéger la qualité qui reflétait Abraham. Et c'est là la grandeur, la gdoula, c'est-à-dire le savoir partagé, le don. Abraham, ish ha-chesed. Vous avez compris? Donc protège dans ta vie ta grandeur. Protège dans ta vie ton savoir donné. Ne te ferme jamais. Si tu perds cette grandeur d'Abraham, Avinu, tu es foutu. C'est avec ça que tout commence. Ken? Gdoula et Chesed,
c'est la même chose.
Gdoula et Chesed, c'est exactement la même chose. Ce sont des synonymes. Okay. Alors, tu vas me poser la question pourquoi de temps en temps on dit Chesed et pourquoi on dit Gvura et Gdoula. Je te répondrai que ce sont des termes de Kabbalah et quand on étudiera un petit peu plus en profondeur, okay, on rentrera dans tous ces inyanim. Okay. Il y a plusieurs d'autres degrés, c'est-à-dire ce sont des synonymes de ces degrés-là. Je peux te dire par exemple une couleur qui va dire la même chose, autrement dit le blanc. Et j'aurais dit Chesed et j'aurais dit Gdoula. Je pourrais te dire Abraham. Donc je t'ai dit la même chose, maintenant je lui ai donné un nom. Je peux te dire aussi une direction. Laquelle? Le sud. Le sud égale Chesed, égale la bonté. Donc je peux te dire donc le sud, le blanc, le lait, Abraham. Tout ça, c'est la même chose. Je suis en train de dire la même chose. Je parle en code qui veulent tous dire exactement la même donnée. Shavuot, nous mangeons plus que d'habitude des aliments de lait. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Car le lait représente la bonté. J'en ai parlé tout à l'heure. Et le lait représente la Torah. Et la Torah représente le lait. Le lait, c'est la bonté, on n'a pas besoin de tuer l'animal pour le consommer. Au contraire, quand je traie la vache, je l'aide à mieux vivre. Donc moralité, je continue la vie par le lait. Donc les aliments de lait correspondent tout à fait à la fête de Shavuot, qui est en réalité la voie lactée. Ve'az, mitgale be'ofen barur. Donc se révèle d'une manière claire, évidente, she'aretz hi shel Hashem, que la terre tout entière appartient à qui? Kadosh Baruch Hu, Kevan, Shena, Asa, Bahagilu et Aelion. Tout simplement pourquoi? Eh bien, parce que Kadosh Baruch Hu se révèle sur terre. Ça veut dire que c'est lui le patron. Rien ne l'empêche de se révéler. Il arrive enfin sur terre. Il descend entre guillemets enfin sur terre. Rien ne l'arrête. Moralité, c'est lui le maître de ce monde. Donc il y a rétroactivement une prise de conscience que ce monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Et Kakadosh Baruch Hu enfin rejoint ce monde qu'il a quitté entre guillemets lors de la création. Klomar, Shamesarim Elionim. Donc je veux dire par là que toutes les données supérieures de Dieu, Magiim la Artziut, arrivent au niveau terrestre. La terre en hébreu, ça s'appelle Eretz, ça vient du mot Ratson, c'est-à-dire que quelque chose dans notre désir se transforme. Une fois que la Torah m'a touché, je ne suis plus le même. D'accord? Donc, Mashpi'im Alea, ça influe sur la terre, les Tova Velivracha. Encore un synonyme, Tova, Chesed, c'est la même chose, tu peux le rajouter dans ta liste. Le Tov et la Bracha. Okay? La Bracha qui est en réalité synonyme de l'aîné. Bechor, c'est les mêmes lettres que Bracha. Ça veut dire le premier-né, c'est la bénédiction. C'est ce qui fait le lien. Donc les varech en hébreu, c'est faire le lien. Donc le Bechor fait le lien entre le papa qui n'a pas été papa jusque-là. Il devient papa à partir de son premier-né. Donc le père devient père par son premier-né. Donc qui fait qui? C'est le fils qui fait le père. Vous avez compris? C'est le fils qui rend père le père. Alors qu'avant, il était seulement mari. Donc, lorsqu'on reçoit la Torah dans ce monde, on rend à Kadosh Baruch Hu, papa, Avinu. Et en même temps, il est Malkenu. Est-ce que c'est clair? Donc, moralité, si la bénédiction s'opère, il y a une bénédiction, une bracha, eh bien, il y a un lien entre les mondes, et ce lien se multiplie, parce que la qualité de la bracha, c'est la multiplication. Quelle est la valeur numérique du mot Barer, qui est les trois lettres racines? 222. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est 2, 2, 2. C'est la multiplication. Donc à chaque fois que tu parles de bénédiction, c'est égal multiplication des choses. Quand on dit à quelqu'un qu'il a la bracha, ça veut dire que tout ce qui touche, ça se multiplie. Donc de 1, ça devient 2, 2, 2. Vous avez compris? Barer. Ou Bechor, la même chose. Ça va ou... Des fois, vous jouez au poisson. On ne vous entend pas. On ne sait pas ce que vous pensez. Dites-moi, tu nous saoules, ça va pas, je comprends rien. Veisrael mit alim liot sgula mikola amim. Conséquence, le Rav continue. Et Israël se développe, monte, et il devient Segula. Qu'est-ce que c'est Segula? Alors, qu'est-ce que ça veut dire mit alim liyot sgula?
Une lumière, une chance.
Écoutez bien les termes. Mit alim liyot sgula. Il monte pour être segula mikola amim. Qu'est-ce que c'est le mot segula? Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais de quelle racine, de quel verbe? De quel terme vient le mot? Yafemeod. Mesugal. C'est-à-dire apte à. Et donc Israël, en fait, monte. C'est pour ça que j'ai voulu signaler et préciser la montée. Israël monte pour être ce qu'ils sont capables d'être. Autrement dit, jusqu'à maintenant où ils étaient en bas, qui ne sont pas encore montés, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient capables d'être. Donc quand quelqu'un monte à son véritable niveau, il voit là-bas, dans cet étage supérieur, ce qu'il est capable d'être. C'est-à-dire on lui révèle ce qu'il est réellement. Je reviens, donc à la fête de Shavuot, au moment où Akadosh Baruch Hu donne la Torah d'Israël, Israël voit clairement ce qu'il est. Pour la première fois, Israël comprend ce qu'il est réellement, ce qu'il est capable d'être, Mesugal, Mikola Amim, Ken, il a reçu ça de parmi toutes les nations du monde, sans rentrer maintenant dans l'explication. Ok? Alors qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il est capable d'être? Qu'est-ce qu'il est capable, ce peuple d'Israël? C'est ce qui se révèle la nuit de Shavuot. Vous savez pourquoi on ne dort pas la nuit de Shavuot? Vous savez que le Harizal dit que celui qui ne dort pas cette nuit-là, le Harizal lui promet d'être en bonne santé jusqu'à Rosh Hashanah prochain. Et qu'aucune force négative ne peut l'atteindre. Sans fermer l'œil un seul instant. Hein, même pas faire comme ça. Okay. Et donc il faut faire très attention cette nuit-là précisément de ne pas s'endormir. Même pas les namnem. Marqué, même pas faire comme ça. Okay. Piquer un petit peu du nez, une seconde, c'est comme si tu as dormi. Donc il faut être vraiment éveillé. Okay. C'est pas les yeux qui font en sorte que tu dors ou pas. Il y a des gens qui dorment avec les yeux ouverts. Okay. Il y a même des élèves qui dorment avec les yeux ouverts. Ils font semblant de te regarder. Je fais de temps en temps le test. Ici, je ne le fais pas parce que je suis sur Internet. Mais je vous garantis que de temps en temps, il y a des élèves, je leur raconte n'importe quoi, ils me font comme ça. Et en plein milieu, je sais qu'il ne me suit pas. Je lui dis, ouais, j'ai étendu mes chaussettes mouillées tout à l'heure et il me fait comme ça, il continue à me faire comme ça. Okay. Alors je lui dis, bon, allez, va dormir. Il me dit, pourquoi? Je t'écoute. Je dors pas. Je lui dis, mais tu sais ce que je suis en train de dire maintenant? Ok. Alors, klomad, chez Bemahamadze, ça veut dire que pendant cet instant, ce moment-là du don de la Torah, midbarer le mafrea chez Goulat Amoussar à Elion Shayach l'Israël. Que quoi? Que la Ségoula, on apprend, on intègre, on comprend rétroactivement que la Ségoula de la valeur morale supérieure appartient. Shayechet. J'ai fait une erreur d'hébreu. Corrigé, c'est Shayechet et pas Shayach. Tu vois que tu ne suis pas? Deuxième ligne, Shayach, j'ai marqué. Shayechet. Shayechet, parce que c'est la Sgoula. Shayechet le Israël. Appartient à Israël. Dafka, précisément. Vezoi Sgoulato à Elohit. Et voici sa Sgoula. Comment on dit ça? Son aptitude, yafemod. Voilà le vrai terme. Son aptitude avec laquelle il a été doté lorsqu'il a été créé. Par laquelle il a été ken mevorach. Ukshehashamayim niftachim bifnehem. Et le soir ou le jour, ken, regardez bien qu'en réalité, ce jour-là de Shavuot, il représente en fait une entité d'un monde supérieur à notre monde. Ça veut dire que qu'est-ce qui n'existe pas en fait pendant Shavuot? Il y a fait, mais en même temps, quelle notion disparaît un petit peu? Une des notions de la création. Le temps. Le temps n'existe pas. Même si c'est dans le temps, puisque Shavuot commence à un moment donné, il se termine à un autre moment, mais tu vois bien que les notions de temps ne sont plus les mêmes, à tel point que la nuit devient jour, tu ne dors plus. C'est pas normal. C'est pas normal de ne pas dormir. Ça veut dire que tu as transformé la nuit naturelle dans ce monde en quelque chose de jour. Et tu es devenu comme qui? Comme Akadosh Baruch Hu qui lui ne dort jamais. Hine lo yanum velo ishan shomer Israël. Ça veut dire qu'on devient comme Akadosh Baruch Hu. On joue un petit peu le rôle de Dieu sur terre. Vous avez compris? Je suis en train de vous donner ici des secrets. Comprenez que c'est des choses très très importantes qui vont vous servir durant votre vie. Ça veut dire qu'on est en train d'ici, pas seulement de recevoir la Torah, Kadosh Baruch Hu est en train de donner la Torah et on l'entend, Anochi, Hashem, Elohecha, oui, c'est sympathique. Non, on est en train de changer, notre qualité est en train de changer. Que représente la nuit en fait? L'exil. Représente la mort, représente l'absence, représente le noir, représente tout ce qui est éteint. Et si je transforme la nuit en jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de vivre la fin des temps, je suis en train de vivre la Géoula, je suis en train de vivre à un autre niveau.
Pourquoi que Shavuot alors?
Ben parce que Shavuot, c'est le contact, le premier contact. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le premier-né. C'est pas que, mais c'est là-bas où ça commence. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle Bechor. C'est pour ça que le Rav Kook l'a traité, l'a considéré comme étant le premier-né, ce jour-là. Premier-né, sous-entendu, la première pensée initiale. Vous êtes avec moi? Donc tout est en train de s'ouvrir. Donc Yecholi même l'irod bevadaout et yesodam apnimi. Donc si tout s'ouvre devant moi, si je suis à un étage supérieur maintenant, tout devient vadaï. Qu'est-ce que c'est vadaï? Évident. Tout devient réel, tout devient vrai. Je n'ai plus de doute. On m'a dit, je pense. J'ai la foi. Non, tous ces termes, ça ne veut plus rien dire. Je crois. Il n'y a plus de croyance. Je suis dans l'évidence, je suis dans la... Quel est un mot synonyme d'évidence? Dans la certitude, un synonyme très fort. La base de tout. Je suis vivant. C'est ça être vivant. Donc la certitude annule quoi? La mort. D'accord? Être certain, c'est être vivant. La certitude est synonyme de vie. Si tu ne vis pas, tu n'es pas certain, Chas v'shalom. Ok. Vezeh hemshech dvarav. Et ça, c'est la suite que le Rav Kook est en train de nous dire, encore une fois en gras, Venishmotehem shel Israël, Que se passe-t-il à ce moment-là? Les Neshamot d'Israël nirot bibhiruta matzachtzacha. Voilà. L'âme d'Israël, les âmes d'Israël se font voir, se montrent sur leur forme de quoi? Bahir. Qu'est-ce que c'est Bahir? Clair. Ken? Tzachtzacha. Qu'est-ce que c'est Tzachtzacha? Luisant, c'est-à-dire ciré. C'est-à-dire quelque chose qui est tellement clair qu'il n'y a même plus de doute, il n'y a même pas de voile. Je vois clairement qui je suis. Je suis tellement certain de mon être que je vis pleinement ma vie. Il n'y a pas plus fort que ça. Si je vis le soir de Shavuot avec cette intensité, j'explose de vie. Comprenez? Et donc c'est pour ça que le Harizal dit ce qu'il dit. Je te promets que tu resteras vivant. Pourquoi? Parce que tu as touché en fait l'essence même de la vie. Et tu as pris une mana, une part de quoi? De vie tellement grande qu'elle va te servir jusqu'à Rosh Hashanah. Ok? Les fiches en me'akev. Et pourquoi c'est devenu tellement clair? Parce qu'il n'y a plus personne pour déranger. Il n'y a plus personne pour retarder le processus. Ok? Ve'en masach mafrit ben havayatam atachtona le ben zgulatam a'elyona. Donc il n'y a plus de différence entre ce qu'ils sont au niveau bas et ce qu'ils sont au niveau élevé. Ve'akol na'ase echad be'achdut behira. Et tout devient en réalité un, dans une unicité claire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la source et le résultat. Il n'y a pas de différence entre l'être et le paraître. Tu es dehors ce que tu es dedans. On est comme ça, nous? Oui ou non? Baruch Hashem, tu es arrivé à être dehors ce que tu es dedans, vraiment? Ok. Alors c'est ça qu'il faut être. C'est ça qu'il faut être. En hébreu, ça s'appelle Tocho Kebaro. Son intériorité est comme son extériorité. Veha ahava veha hibba hayetera. Qu'est-ce que c'est ahava? L'amour. L'amour est synonyme de chesed. Donc encore une fois, chesed s'appelle ahava. Tu peux le rajouter sur ta liste. Donc l'amour est synonyme de d'identification avec l'autre. Quand je m'identifie à un autre, je l'aime. Vous saviez ça ou pas? Comment tu peux dire à quelqu'un je t'aime et être vrai dans ce que tu dis? Seulement lorsque tu t'identifies à lui. Parce que quelle est la valeur numérique du mot Ahava? 13. Et 13 c'est la valeur numérique de Echad. Ça veut dire si je deviens un avec toi, c'est que je t'aime vraiment. Si je m'identifie à toi, pas je te dis à distance je t'aime, je te postillonne de l'amour. Okay? Des postillons d'amour. Des confettis d'amour. Non. Je m'identifie à toi. Là, ça prouve que je t'aime. Ken?
La haine aussi,
La haine, c'est en fait une capacité d'amour qui n'a pas été vécue. C'est la même intensité, en fait, au niveau moteur, mais qui a été vécue dans le sens inverse. Ça veut dire que si tu es capable de haïr quelqu'un, c'est que tu es capable de l'aimer. Très fort. C'est pour ça que les nations du monde, pour l'instant, nous haïssent, mais c'est parce que, intuitivement, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont capables de nous aimer très fort. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux le haïr. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le haïr. Vous avez compris? C'est un paradoxe. Donc, ve'ahava, ve'achiba, qu'est-ce que c'est chiba?
Sentiment.
Non.
Relation.
Chiba. En arabe, qu'est-ce que c'est? Anna mahabbek. Non. Non. Habibti. Chaviv. Qu'est-ce que c'est chaviv en hébreu? Bien-aimé, chéri. Donc en arabe, je t'aime. Anna mahabbek. Ken? Ça veut dire je t'aime. Et c'est la même chose. Donc khiba, c'est un synonyme d'amour. Et en même temps, il y a à l'intérieur, je rajouterai, le mot chova. Je me sens obligé, c'est-à-dire j'ai quelque chose qui m'oblige à te faire du bien parce que je ne peux pas faire autrement tellement je m'identifie à toi. Riba yetera, c'est-à-dire une prise de conscience tellement puissante, yetera, plus que la normale. L'école Neshama v'Neshama m'Israël, à toute âme et toute âme d'Israël. Qu'est-ce que fait le Rav Kook maintenant? Il est descendu du Klal vers le Prat, c'est-à-dire il est en train de s'adresser à chaque Neshama, parce que finalement on s'est un petit peu perdu dans le ciel, avec toute cette grandeur. Oui? Eh bien le Rav nous dit non. Même dans la Neshama individuelle que tu as, que tu possèdes, tu vas recevoir cette même lumière à ton niveau maintenant. Vous avez compris? Ça veut dire que cette lumière que tu as touchée, qui t'a touché du très haut, va circuler tellement profondément en toi jusqu'à ce qu'elle va toucher ton essence individuelle. Pas seulement au niveau collectif Israël, même au niveau de ton individualité, tu vas changer. Ou le kol echad bifne atzmo. Regardez le Rav, il continue pour renforcer ce qu'on est en train de dire. Chacun selon ce qu'il est. Mitgadelet le enket, si elle grandit jusqu'à l'infini. Donc j'explique maintenant avec mes mots. Vezot, ceci, pourquoi? Shazgula, klalit mitparetet. Que la grande segula, aptitude, notre grande capacité, arrive à se mettre en détail. C'est-à-dire, elle s'habille dans les détails que nous sommes. Les lomafria, sans aucun dérangement. C'est-à-dire, personne ne vient couper le lien, puisque nous sommes maintenant face à nous-mêmes au niveau le plus haut. Il n'y a plus de dérangement. On est dans un étage où personne ne peut venir rentrer au milieu, nous perturber. On est dans un moment d'intimité. Alkol echad ve'echad, donc chacun de nous reçoit cela, les fitrunotav apratiot, selon ses données individuelles. Chacun de nous a des données différentes, nous sommes d'accord. Umimeila kol echad roe ve'chay bevadaout, donc chacun de nous verra, par conséquence, et vivra, clairement, d'une manière évidente, ou bene emanout, et avec fidélité absolue, avec confiance totale, melea et chayav amekorim, kefishem bagova elyon, il va vivre selon sa véritable hauteur supérieure, shel nishmato, de sa véritable neshama. Hachene elamim kola evdelim, à tel point que toutes les différences vont disparaître, vont se dissiper. Entre quoi et quoi? Eh bien, entre la source ben hamakor, la totsaot et tous les résultats en bas, à tartonot. Ve'akol nimtza be'ardut nifla, donc tout devient unique, dans l'unicité parfaite. Moralité, combien de jours doit durer réellement la fête de Shavuot? Combien de jours la fête de Shavuot doit durer? Je viens de parler d'unicité. Une journée seulement, ça veut dire que la véritable fête de Shavuot ne peut pas durer plus qu'un jour. Donc ce qu'on fait en Chutz La'aretz, si on fait Shavuot deux jours, en réalité c'est pas une bêtise, mais c'est une perte, parce que on est en train de sortir en fait de cette unicité. Alors là-bas l'unicité va durer deux jours, mais en réalité c'est pas exactement comme ça doit être au niveau de la source. La source de Chag HaShavuot ne peut pas être deux jours. C'est obligé d'être une journée dont la nuit s'est transformée en jour, c'est-à-dire Laila Kayom Yair. La nuit va éclairer comme le jour, autrement dit, j'ai un jour tout entier où la lumière divine est en train d'éclairer. Atkan Lehayom Chag Sameach.